5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ici Max Newtown et bienvenue au Pro Shop. Cette semaine, pour l'épisode numéro 7 du Pro Shop, nous allons évidemment aborder la finale de la Coupe Stanley entre les Boston Bruins et les Blackhawks de Chicago. Et aussi, un paquet de sujets, comment dire, présentement super trendy dans la Ligue nationale de hockey. Les agents libres, le repêchage, les nouveaux règlements et... Joe Sakic a déclaré cette semaine qu'il allait peut-être échanger son premier choix. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision? Hein?
Mais on va voir ça.
On va voir ça, mais comme que, là, Ben, j'ai même pas le temps de te présenter. Mais écoute, je vais te présenter direct là, mon co-animateur, Benoît Brunette.
Oh, ben salut les boys.
Hey, ça va?
Ouais, pas pire, j'étais un peu excité de parler. Ouais, j'étais un peu coupé, là. Désolé, mon
ben, maître. Écoute, ça va faire changement sur mon intro, ça va faire plus naturel là, que mon petit speech d'habitude. Fait que non, je suis bien content. Non, moi, tout, j'ai hâte de parler de ça avec toi, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu en penses de Joe Sakic, à savoir s'il va échanger son premier choix. Est-ce que tu peux me donner juste un petit hint? Tu penses-tu, avant qu'on en débatte, est-ce que tu penses que c'est une bonne ou une mauvaise décision?
Ben, ce serait pas une bonne décision. Puis,
ok, mais arrête-toi là. Je vais te demander pourquoi tantôt tu penses que c'est une mauvaise décision. On va aller rejoindre Simon Brunette. Simon, ça va?
Salut, ça va toi?
Avec ton espèce de petit salut enfantin des camps de jour. Ben oui, ça va super bien.
Good.
Comme toujours. Veillez tard, mon Simon, pour écouter les matchs de la Coupe Stanley entre les Bruins et les Blackhawks.
Ouais, ben j'ai commencé à travailler un petit peu de nuit, fait que j'ai de la misère, mais j'ai réussi à les regarder quand même.
Hein. Ah, c'est bon. Puis toi, peux-tu te demander, là, juste, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision selon toi si Joe Sakic échangerait son premier choix? Là?
Je pense pas qu'il va l'échanger, mais s'il le fait, c'est une mauvaise. C'est un mauvais choix.
Je veux dire, prendre Jonathan Drouin ou Nathan MacKinnon au lieu de Seth Jones, est-ce que tu penses que c'est un bon ou c'est un mauvais choix?
Je vais y aller avec 50-50. On en parlera tantôt.
OK, c'est bon. Excellent. Good, les gars. Hein? Ben, tu sais, là, vu qu'on va débattre tantôt, je vous amène directement au premier segment de l'émission. Vous savez c'est quoi? Les Top Net! Hey! Les gars, cette semaine, au Top Net, mon premier Top Net, en fait, c'est durant le deuxième match à Chicago. À un moment donné, les Blackhawks ont compté un but. Puis, ce que la production de CBC a décidé de faire, c'est de faire une espèce de gros zoom-in sur un fan des Bruins de Boston pendant que... pour montrer sa réaction là, pendant que le but a été compté. Puis après ça, ils ont fait un gros zoom-out, puis après ça, on s'est rendu compte que le fan des Bruins de Boston était entouré d'un paquet de fans des Blackhawks de Chicago. C'est normal, parce que c'était à Chicago. Mais c'était juste de le voir un peu perdu avec sa bière, puis regarder alentour de lui, puis faire comme... Ah, oh, merde! T'sais, parce que tout le monde fêtait, festoyait autour de lui, puis lui, il était avec sa bière, bien peinard, piteux. Fait que j'ai trouvé ça bien drôle. Fait que c'est mon premier Top Net de cette semaine.
Ben moi, pour mon premier Top Net, je vais y aller avec Daniel Paillé. Daniel Paillé, c'est un Ontarien. Il a 29 ans présentement, 6 pieds 1, à peu près 200 livres. T'sais, il connaît la meilleure séquence de sa carrière. Ça a tout le temps été comme un joueur de 4e trio. Mais présentement, il a 2 buts et une passe présentement. Je vais dire ça souvent, présentement. Mais il a 2 buts et une passe dans la série contre Chicago. C'est un joueur de 4e ligne. Mais j'en ai parlé la semaine dernière, on savait pas comment la quatrième ligne allait réagir avec la blessure à Gregory Campbell. Mais je pense que Daniel Paillé, il s'est levé. Puis il est en train de montrer que c'est un des meilleurs joueurs de quatrième trio présentement dans la Ligue nationale. Puis Julien, il l'a vraiment bien utilisé au dernier match. Il l'a utilisé pendant environ 14 minutes alors que les autres joueurs de quatrième trio, il les a utilisés environ 6 minutes. Donc il est dans sa zone, puis je pense que ça peut être... un facteur important si Boston gagne la Coupe Stanley.
Mais je suis d'accord avec toi, Ben. Je pense que c'est un peu... on voit qu'un joueur peut se faire changer par la façon qu'il se fait coacher. Daniel Paillé a été un choix de première ronde. Il jouait avec Buffalo, puis il était quand même Il était capable de faire, d'apporter un petit quelque chose offensivement, mais ils l'ont placé sur un trio défensif. Puis là, en ce moment, ben, il reprend ses vieilles coutumes d'être capable de donner un apport offensif. Tant mieux. Mais je continue à parler de Boston de mon côté. Je vais vous parler de Tuukka Rask. Je trouve qu'en ce moment, il fait la différence. Pendant les deux premières parties, c'était vraiment égal. Les deux parties étaient en prolongation. Les deux gardiens ont super bien joué. Mais dans la dernière partie, j'ai trouvé que même si la défensive a mieux joué aussi de Boston que celle de Chicago, je trouve que il a quand même apporté quelque chose. Il a fait des gros arrêts quand c'était important. Chicago, à la fin de la partie, voulait revenir. Ils n'ont pas réussi, justement, en partie à cause de Rask, qui a fait les bons arrêts. Puis justement, Crawford, de son côté, il a reçu un peu plus de lancers, mais quand même, il a cédé à deux reprises, malheureusement. Puis je pense qu'en ce moment, Rask, il prend les devants sur la compétition de gardien de but en finale. Puis ça pourrait faire mal ce soir s'il réussit à continuer sur cette pensée-là.
Parlant de prendre les devants, mon prochain top net concerne la proactivité de Claude Julien. Vous savez, il y a deux types de coachs. Il y a ceux qui sont réactifs et ceux qui sont proactifs. Puis, pour moi, je pense que c'est bien des fois d'être réactif, mais je crois que c'est encore meilleur d'être proactif. C'est de prendre les devants, c'est d'être dans le moment présent, puis c'est de savoir aussi qu'on s'en va parce qu'on a un plan d'élaborer à l'avance, puis bien construit, bien ficelé. Puis Claude Julien l'a démontré en troisième période lorsqu'il restait une minute lors du dernier match. Il était encore en train de coacher. Il parlait à ses joueurs lorsqu'il y a eu un petit dégagement à refuser, je crois. Il les a amenés au banc. Il les a parlé vite, vite, vite. Puis il coachait. Il était pas comme juste réactif ou juste en train de se balader entre la portion des défenseurs et la portion des attaquants comme un certain Jacques Martin. Je l'ai déjà vu faire pendant les séries. Claude Julien, il coachait. Puis pour vrai, fait que c'est mon deuxième top.
Et moi, pour mon deuxième top net, ben, je vais continuer avec les Bruins. On est bien parti. Je vais aller avec Milan Lucic. Je trouve qu'il est dominant présentement. Il est comme ça un peu depuis comme le début des séries. Quand il est sur la patinoire, les joueurs reculent un peu. On a pu voir même John Marston. Il a eu peur de lui un moment donné. Lucic arrivait en échec avant, puis John Marston s'est tourné de bord. Puis, il a comme juste poké la puck, puis il a essayé de s'enfuir. Lucic est arrivé puis il l'a quand même ramassé. J'ai trouvé ça assez spectaculaire. Là, ça prouve vraiment que Lucic il est comme dans une classe à part dans la Ligue nationale pour le jeu physique. Il a déjà 17 mises en échec après 3 matchs. Dans la première partie, il y a eu 2 buts, une passe. Donc, il a contribué offensivement. Mais dans la deuxième partie, puis dans la deuxième, il n'y a pas encore eu de points. Mais dans la deuxième partie, il y a eu 10 mises en échec. C'est quand même beaucoup. Là, s'il peut pas contribuer à l'offensive, c'est le joueur-là qui va contribuer c'est physiquement. Puis c'est pas un mauvais joueur défensif non plus. Puis je pense que ça va être également comme Daniel Payet, une bonne. Il contribue assez bien pour qu'il gagne la coupe. C'est ce genre de joueur-là qui fait la différence. Puis Lucic le prouve présentement.
Good, moi pour mon deuxième top net, Max. Tu vas pas être fier de moi, mais je vais pouvoir remettre mes affiches d'Alain Vigneault dans ma chambre.
Oh,
et oui, Alain Vigneault qui vient d'avoir un contrat de 5 ans avec les Rangers qui va lui donner 2 millions par année. Ça va être le coach le mieux payé dans la Ligue nationale. Personnellement, je trouve que c'est mérité. Ça fait 5 saisons de suite qu'avec Vancouver, il finit au minimum premier dans la division Nord-Ouest. Puis pas cette année. Les deux autres années d'avant, il a fini premier dans la ligue côté résultat. C'est sûr que c'est une histoire d'équipe. C'est pas juste le coach qui ramasse les bénéfices. Mais en même temps, à chaque fois qu'une équipe va pas bien, il tape sa tête du coach en premier. Ben là, quand l'équipe va bien, je vais donner le mérite au coach en premier. Fait que je pense que c'est mérité. Les Rangers, tant mieux. Ils vont avoir, avec tout l'argent qu'ils ont, puis comme que la petite discussion qu'on a eue avec Ben l'autre jour. Ils vont pouvoir s'acheter des joueurs, mais des joueurs qu'Alain Vigneault va pouvoir avoir. Je pense que c'est un bon gars. Il a une tête de hockey. Il va savoir comment monter son équipe. Puis il va avoir une opportunité un peu mieux. Puis il va avoir un vrai premier gardien de but, je pense, qui tombe pas. Ben, Luongo était bon quand même dans les dernières années. Il a peut-être tombé un petit peu cette année. Mais sinon, j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Je pense que c'est un super bon choix. Puis c'est ça, c'est payé cher, mais c'est payé cher pour avoir de la qualité. Puis...
Mais en...
Non, vas-y,
bon,
Ben.
Vas-y.
Mais en plus, on l'a dit récemment, je pense que c'est il y a 2 semaines, que ça sera pas long avant qu'Alain Vigneault il se trouve un nouvel emploi. Puis ça a été le premier entraîneur quasiment à se trouver un emploi, donc
ouais,
chapeau à lui.
Ben, c'est parce que c'est un coach qui est très structuré, puis en même temps, c'est un coach qui est capable d'amener une espèce d'esprit de communauté, puis une espèce d'esprit d'engagement avec ses joueurs. Moi, je pense que c'est ça son point fort, c'est son leadership. Puis en même temps, il est structuré dans ses plans de match, puis il est très leader aussi. Puis, il y a une façon d'être un bon leader, puis je pense que c'est pas juste être un criard ou être l'ami de ses joueurs. Là, il est dans le juste milieu, il est capable de coacher, puis de donner des buts, puis d'amener un esprit d'équipe exceptionnel avec ses joueurs. Moi, je pense que c'est ça.
Dans les 5 dernières saisons, il y a une moyenne de 100 points par saison. Cette année, c'est sûr que non, à cause que la saison a été écourtée. Mais si on fait juste la moyenne, ça y aurait donné quand même 100 points cette année. Les points qu'il y a eu par rapport à 48 matchs à 82 matchs habituels. Fait que non, j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va donner un petit regain de vie aux Rangers, qu'ils vont en avoir besoin. Puis ça va être le fun de les suivre.
Effectivement. Sur ce, moi, Simon, en fait, j'étais d'accord avec toi à propos de tout ce que tu as dit avec Alain Vigneault, mais je vais quand même enchaîner par rapport à autre chose. Ben, là, 2 semaines, là, tantôt, tu as parlé de Milan Lucic comme quoi qui était. C'était un dur à cuire. Puis que je pense là, 1 ou 2 semaines, tu as parlé de Gregory Campbell là, lorsqu'il a reçu son lancer frappé sur la jambe. Mais, ouais. Parlant tough là, pis dur, puis Zdeno Chara, je sais que c'est évident. Je sais que c'est évident que tout le monde le sait que Chara, c'est un tough. Mais pour déblayer un devant de but, là, un devant de net là, en bon québécois, il n'y a personne de meilleur que Chara. Puis c'est un gars qu'il s'en contrefout quasiment des règlements. C'est épouvantable. Là. La petite bataille qu'il a eue avec Brian Bickle, il a quasiment... je vais utiliser... Malheureusement, le terme violé, là, mais je veux dire, il a carrément foutu une volée. Il a violé l'intégrité de Brian Bickle carrément lors de la dernière partie. Puis je veux dire, c'est dans mes top nets simplement parce que c'est pas que j'apprécie le côté violent, c'est pas du tout ça, mais j'apprécie quand, pour un gardien de but, là, avoir un défenseur qui est capable de déblayer le devant du but, c'est toujours apprécié. Puis écoutez, Chara le fait pas de la manière la plus élégante et de la manière la plus politically correct. Mais il fait quand même le boulot, fait qu'il est dans mes top nets.
J'aimerais juste dire que le pro-shop ne s'associe pas au terme violé.
C'est une métaphore, qui est pas violé dans le sens violé.
C'est ma vengeance pour toutes les fois que tu disais que le pro-shop ne s'associe pas à ce que je dis.
C'est vrai. J'avoue que c'est un mauvais choix de mots, là, mais vous avez compris ce que je voulais dire.
Oui, on a très bien compris.
Mais je suis d'accord avec toi, Max. Chara, tu sais. En plus, ils sont à domicile, donc ils ne voulaient pas laisser Beckle. C'est pas la loi à Boston. Donc, belle contribution de Chara que j'aime bien. Moi, pour mon troisième top net, ben, ça va être pour 3 joueurs. Dans le fond, c'est 3 extensions de contrat. C'est de Voinov, Datsyuk et Couture. Premièrement, Voinov, Simon, t'en as parlé quand même souvent. Il y a eu une extension de 6 ans pour en moyenne 4,16 millions par année.
Oh, yeah.
Ça va quand même être une aubaine en bout de ligne. Tu sais, 4,16 millions. Pour un joueur défenseur, présentement, il a quel âge? Environ 21 ans.
Il est très jeune, je pense qu'il a 22 dans ce coin-là, exactement.
Ok, donc à la fin de son contrat, il va avoir environ 29 ans. Donc il va entrer dans son prime. Puis il a déjà une des bonnes séries cette année. Il a eu 6 buts, 7 passes en 18 matchs. Puis il s'améliore d'année en année. Donc c'est un joueur qu'on va garder un œil sur lui. Datsyuk, qu'on peut pas se le cacher, c'est un de mes préférés à Détroit. Je trouve qu'il peut encore fournir la marchandise. Il a eu 3 ans pour 7,6 millions. Détroit va rentrer dans l'Est l'année prochaine, puis ils vont avoir besoin de ce genre de joueur-là pour amener la contribution offensive, parce qu'on sait que dans l'Est, c'est plus offensif que dans l'Ouest. Donc, en plus, il y avait des rumeurs qui envoyaient Datsyuk en Russie pour finir sa carrière, donc... Je suis bien content qu'il va rester dans la Ligue nationale. Puis finalement, Logan Couture, il a eu une extension de 5 ans pour 6 millions par année. Mais il est en train de prendre la relève de Joe Thornton puis Patrick Marleau. Dans les 3 dernières saisons, il a eu en moyenne 29 buts et 55 points par saison. Donc, c'est un jeune... Il a tout le temps été bien vu. C'est un prospect qui a été bien cuté depuis plusieurs années. Il a fait ses classes et là, il est en train de prendre... Tu sais, dans quelques années, ça va être lui qui va avoir le C, selon moi, à San Jose. Puis, tu sais, je trouve que c'est une bonne signature pour un joueur d'avenir comme lui.
Good. Ben, moi, de mon côté, j'imagine que je vais pas recevoir de fleurs pour ce top net-là. Le monde va peut-être pas être d'accord, mais je vais le donner à Rich Hero, qui a gagné le trophée pour le meilleur directeur général. Et je trouve que c'est mérité. Puis, pas juste pour... Mais je trouve qu'il a fait un meilleur travail après la saison que tout. Je trouve que c'est un bon truc qu'il a fait de donner une extension à Dan Bylsma. Peut-être qu'il y a du monde qui pense que non, ils ont perdu. Ils ont été dans le top 4, mais ils ont perdu. Ils se sont fait sortir rapidement par Boston. En même temps, Boston, on le voit, c'est une très bonne équipe cette année. Ils supportent. Ils vont super bien. Je pense que c'est pas nécessairement une honte de perdre contre eux. Mais il a donné la confiance à son entraîneur aussi. Faut pas oublier, les Rangers avaient besoin d'un entraîneur et si Bylsma avait été libre, j'imagine qu'il aurait donné le contrat parce qu'il connaît Pittsburgh. C'est l'équipe que lui a montée. Fait que quoi de mieux que de connaître par cœur la meilleure équipe de sa division puis être capable de jouer contre eux. Fait que je pense qu'il était menotté juste à cause de ça, principalement, là, que leur ennemi numéro un en division pouvait lui offrir un contrat s'il donnait pas sa confiance. Donc je pense qu'il avait pas le choix. Sinon, je sais que le contrat de Malkin est quand même assez gros. Je suis pas 100% d'accord avec. Par contre, c'est un excellent joueur avec toutes les menaces de lui aussi d'aller jouer en Europe et quoi que ce soit. Je pense qu'il n'y avait pas nécessairement le choix et Crosby qui se blesse souvent. Mais sinon, juste le fait qu'il se tienne en arrière de son gardien et qu'il ne dise pas « je vais essayer de l'échanger », qu'en bout de ligne, personne ne veut rien y offrir, qu'il le garde, mais que le gardien sait que peut-être qu'il va l'échanger, peut-être qu'il va essayer, mais au moins... Il l'a soutenu, puis tu sais, le gardien il aurait perdu toute sa confiance en bout de ligne. Marc-André Fleury, si son directeur général dit oh non, je vais l'échanger, puis en bout de ligne, il n'est pas capable, ben, ça l'aurait fait mal. Ouais, exactement, tu sais, il a essayé de l'échanger, il n'est pas capable, puis il est dans l'équipe qui veut l'échanger, qui ne veut pas le garder, puis tout. Donc, moi, je pense qu'il a fait des bons moves, puis tu sais, on perd, mais on gagne avec son armée, là, je veux dire, pas à cause qu'ils ont perdu cette année, qu'il faut nécessairement tout virer de bord. Je pense qu'ils vont donner un dernier coup l'an prochain avec des gros noms, des grosses signatures, une grosse équipe. Puis peut-être qu'après, ils vont vendre un petit peu plus. Là, mais je pense qu'il a bien joué ses cartes. Puis on va voir l'an prochain. Mais j'ai confiance de ce côté-là aussi.
Good. Non, je suis d'accord, Simon. C'est vrai que tu sais, faudrait peut-être pas en faire un drame. Là, c'est sûr que peut-être un changement d'entraîneur, mais de là à changer tout le monde, puis je pense qu'on est encore capable de faire un petit bout, comme tu dis. Je pense que c'est vrai que. Je pense que Ray Shiro n'a pas fait de si mauvais move que ça. Là,
c'est ça. Je pense, comme que je dis, l'entraîneur, c'est juste parce qu'il était menotté sur le fait que les Rangers avaient besoin d'un entraîneur, puis d'après moi, il aurait offert le contrat à Bylsma, juste pour le fait que Pittsburgh, c'est son équipe, il connaît, puis tout, là, ça leur donne un avantage.
Good!
Peut-être un petit bravo à Subban et tout, qui a gagné le Norris.
Oui, oui, je suis d'accord.
Puis, il a emprunté le veston moutarde de Michel Therrien.
Oh! Oh! Est-ce que ça veut dire que... Non, peut-être que... Non, c'est bon. On s'avancera pas là-dessus.
Je pense que c'était plus une parodie.
Ouais. D'après moi, c'était peut-être un petit clin d'œil à Michel Therrien. Ben, bravo Piqué, hein? Piqué. Bon, c'est fait. Fait que t'as été acclamé. Fait que c'est ça. Bon, les gars. Terminé pour les top nets. On va y aller directement, pas de petite parenthèse, direct au Softies! Time to be bad. Cette semaine, messieurs, mon premier Softie, c'est Jaromir Jagr lors du dernier match durant la troisième période. Ben, je veux dire, en fin de troisième période, il reste à peu près 2 minutes à la rencontre. Il se présente à 3 contre 1 avec Patrice Bergeron puis je pense Brad Marchand. Puis je sais pas pour quelle raison, ben Jaromir Jagr a décidé de faire une espèce de passe super vive par en arrière, tu sais, du revers, là, comme s'il y avait quelqu'un qui l'attendait pour un trailer ou un one-timer ou whatsoever. Puis je veux dire, ça a amené un revirement, puis les Hawks ont failli en profiter puis égaliser la marque. Fait que je sais pas, pas égaliser, mais mettre ça 2-1. Fait que je sais pas, j'ai trouvé ça assez ordinaire, puis je trouve que Jagr joue des séries quand même ordinaires. Fait que c'est mon premier softie cette semaine.
Ok, ben moi, mon premier softie, ben je vais y aller avec l'attaque des Blackhawks présentement. Je trouve que l'absence de Marianne Hossa fait vraiment mal aux Blackhawks. On dirait qu'ils n'ont pas de vie. présentement, c'est Asta, c'est lui le meneur dans les points. Avec Sharp, je crois que Beckhold et tout vient après. Puis Andrew Shaw, ben je dirais que ces quatre-là, c'est pas mal eux qui s'occupent le plus de l'offensive. Jonathan Toews et Patrick Kane, ils pourraient vraiment plus en donner. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes. Puis, Toews en plus, il joue contre les meilleurs joueurs à chaque partie, donc il y a peut-être une petite excuse, mais je trouve que Patrick Kane, il s'est levé dans les parties importantes dans la dernière série, mais je trouve que dans les trois premiers matchs, il n'a pas vraiment été là offensivement. Je crois qu'il peut en donner plus pour le genre de joueur qu'il est. C'est quelque chose qu'on va répéter, ben, que moi je pense que j'ai répété plus d'une fois déjà dans les précédents épisodes. Puis je pense que Patrick Kane devrait en donner plus. Même chose pour Jonathan Toews à l'attaque. C'est beau que tu joues défensivement, mais il faut te mettre dedans également.
Amen.
Non, pas amen. C'est les meilleurs. Là. Ok, c'est pas vrai. Moi, mon premier safety, ça va aller à deux directeurs généraux, en particulier Jim Neal de Dallas et aussi Mike Gillis de Vancouver. Les deux qui, en ce moment, n'ont pas trouvé encore d'entraîneur-chef pour leur équipe respective. Et on est même à moins de deux semaines du repêchage. Donc, les nouveaux entraîneurs vont arriver. Pas vraiment le temps de connaître leur équipe. Pas le temps d'évaluer leurs besoins. Je trouve que c'est un peu mal organisé en ce moment. Il y a une grosse liste de bons coachs. C'est sûr que ça doit être dur. Tu hésites entre un ou un, mais en même temps, je pense pas qu'ils ont nécessairement beaucoup de trucs à faire en ce moment. Le repêchage, ça se fait. Il y a du monde qui s'occupe de ça de leur côté. Je connais pas le travail en même temps. J'ai pas vu c'était quoi la liste de tâches d'un directeur général. Donc, je vais pas commencer à taper sur des doigts. Mais je trouve que c'est une partie très importante d'un club d'avoir un entraîneur. Et en ce moment, il y en a deux qui en ont pas. Puis justement, il y en a beaucoup qui sont libres. Puis je sais pas trop, là. C'est justement, je trouve que c'est super important le repêchage pour bâtir.
Mais surtout que si j'étais entraîneur, j'aimerais ça être faire partie du repêchage. Honnêtement, ben j'aimerais savoir mon état, honnêtement.
Ben c'est ça, savoir c'est quoi les besoins, puis pouvoir donner son mot. T'sais, tant qu'à l'engager une semaine après le repêchage, pourquoi pas une semaine avant? Est-ce qu'ils ont peur que le coach essaie de prendre trop de place? Je sais pas. Jim Neal, en même temps, est arrivé avec l'équipe. Ça fait même pas deux mois. Là, donc, peut-être que c'est le temps de s'habituer et tout, mais quand même.
Mais je sais que Jim Neal est en train de faire plusieurs entrevues.
Ouais.
Et je crois également qu'il attend la fin de la Coupe Stanley. D'habitude, dans les années précédentes, on attendait tout le temps à la fin que, dans le fond, que quelqu'un gagne la Coupe Stanley avant d'annoncer tout ce genre de choses-là, mais avec l'année écourtée cette année,
ben c'est ça.
Il y a plusieurs équipes qui ont voulu y aller plus vite qu'à l'habitude. C'est quand même une tradition quasiment. Tu veux pas mettre l'emphase sur ton équipe pendant que il y a les matchs qui se jouent encore.
Mais en même temps, je pense que c'est plus important d'avoir un coach, de pouvoir l'habituer. Il reste 11 jours avant le repêchage. Que de merde, je vais voler la vedette à deux équipes.
Je pense que faut
être un peu égocentrique dans ce métier-là aussi. Là. Faut pas. Oh non, je vais pas faire ça parce que l'autre équipe va pas être contente. T'sais, je sais pas. Je trouve que. Mais je suis d'accord avec toi, là, ça se peut que ça soit ça leur mentalité, mais faut voir un petit peu plus loin que ça aussi. Puis laisser les coachs faire leur métier de A à Z. Puis là-dedans, je pense que même si c'est pas eux qui choisissent nécessairement leurs joueurs à repêcher, au moins pouvoir donner un petit mot ou connaître un peu le principe, pourquoi ils ont choisi tel et tel. Puis je trouve que c'est un bon processus pour commencer avec une équipe, mais bon, on va voir. Je dis pas que ça va mal se passer dans l'équipe, dans une des deux équipes à cause de ça, mais je pense que ça aurait pu être un plus de donner assez de temps à un des deux prochains entraîneurs de connaître mieux son équipe.
Dans un autre ordre d'idée. Oh my god, j'ai failli m'en farger dedans, mais hein, je l'ai-tu sorti, ce marqueur de relation-là, ou je l'ai pas sorti? Moi, je vais vous parler de Corey Crawford comme mon... Tabarouette, j'en arrache. Ok, c'est bon, c'est correct, je me reprends. Je vais vous parler de Corey Crawford comme deuxième softy. Simon, t'en as parlé tantôt, t'as dit que Crawford avait bien gardé les buts quand même, là, malgré les défaites des Hawks. Moi, personnellement, j'ai pas été si impressionné que que Corey Crawford, tout simplement, je sais, là, les Bruins ont une défensive incroyable, puis ils tiennent des matchs à 1-0, tout ça, mais reste que j'aimerais ça voir Corey Crawford un petit peu plus agressif dans son filet. Peut-être que ça donnerait un peu plus de momentum à son équipe. Là, présentement, il go dans, à l'intérieur de son demi-cercle, puis il se contente de faire des arrêts par pourcentage. Puis je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais j'ai l'impression que c'est plus facilement intimidable un gardien de but qui goal dans son demi-cercle qu'un gardien de but qui est là à défier les tirs comme Tuukka Rask et Jonathan Quick ont si bien fait durant les séries. Mais bon, c'était une petite parenthèse comme ça. Puis c'est tout. C'est ça mon deuxième softie.
Ben, je suis d'accord avec toi encore. Puis moi, pour mon deuxième softie, je vais y aller avec l'équipe des Penguins de Pittsburgh. Peut-être un peu plus avec Rich Hero. Je sais que Simon, tu l'as mis dans tes top net. Mais moi, je vais le mettre un peu dans mes softies. Là.
Tu vois, il est subjugué, il est stupéfait par cette annonce. Ben.
Ouais, aucun commentaire, mais c'est chose que. Il a dit que Christopher Le Temps, c'était un joueur qu'il fallait. Il l'a pas dit ouvertement, mais c'est comme un secret mal caché dans la Ligue nationale. C'est qu'ils vont échanger Christopher Le Temps parce qu'ils veulent pas le payer au prix qu'il va demander. Je pense que c'est pas la meilleure chose à faire. Le temps, ils ont besoin d'un défenseur comme lui qui va pouvoir supporter l'attaque. C'est leur quarterback dans le fond, c'est leur quart arrière pour le power play. Je sais que ils ont beaucoup de prospects à la défense, les Pingouins. Ils ont comme Simon Després, que Rich Hero il a dit que l'année prochaine il va jouer sur le top 4, mais dans un sens, tu peux pas prédire l'avenir. Tu peux pas. Assurer un poste à un joueur comme ça, un jeune joueur en plus. Després, c'est leur premier choix en 2009. Il y a également Ollie Mata et Derek Pouliot, c'est deux premiers choix l'année dernière en 2012. Ils ont été également Scott Arrington, qui est leur deuxième choix en 2011. Ils ont également, dans le trade de Jordan Staal, il est allé chercher un joueur qui s'appelle Brian Dumoulin. Dumoulin, désolé. Puis ça fait 5 bons prospects à la défense, sauf que. Comme j'ai dit, tu peux pas baser ton équipe sur des prospects. Ils ont également Brooks Orpik. À part de ça, ils ont Paul Martin qui est signé encore pour 2 ans, 5 millions par année. Puis c'est pas vraiment le genre de joueur qui, selon moi, qui mérite 5 millions par année. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur défensive. Je sais qu'ils vont sûrement racheter quelques joueurs, mais est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher des joueurs d'impact à la défense? Ça reste encore à voir. Donc, je donne à Rich Hero pour l'instant, mais peut-être qu'il va me prouver tort cet été en bâtissant une meilleure défense qu'il y a présentement.
Good, good, c'est correct. J'ai repris la voix, là. J'ai de la misère à l'avaler, mais bon. C'est pas vrai. Moi, je vais continuer sur ma lignée. Je vais le donner au directeur général des Oilers d'Edmonton. Pas des Oilers d'Edmonton, pas. Mais non, là, lui est correct. Là. Je l'aime bien. On va changer. Ben non, Los Angeles, dans le fond, Dean Lombardi, qui en ce moment, ben en fait, pas le choix en ce moment-là, ça fait 2 ans qu'il parle que Jonathan Quick, c'est son gardien numéro 1, mais qui garde Jonathan Bernier avec l'équipe, mais qui donne pas vraiment de. Ben, c'est pas lui qui décide, c'est son entraîneur, mais qui a pas vraiment de départ non plus, donc il peut pas vraiment monter en valeur. Tout ce qu'il fait, dans le fond, c'est qu'il prend de l'âge.
Il vieillit.
Ben c'est ça, il vieillit là, puis on sait qu'un joueur de hockey c'est pas comme du vin là, tu prends pas de la valeur avec les années nécessairement. Mais c'est ça, je trouve qu'il y a quand même une bonne valeur. Il a joué quelques parties cette année, il a quand même une moyenne en bas de 2 buts par partie. Fait que tu sais, c'est super bon, mais tu sais, il prend son temps là, pour l'échanger. Puis on a vu par le passé, des fois c'est essayer de trop en avoir. En bout de ligne, tous les directeurs généraux vont t'offrir moins, puis tu vas plus être capable de l'échanger. Je sais qu'avec les Flyers de Philadelphie, ils demandaient à Sean Couturier un autre jeune joueur, puis un choix de repêchage, quelque chose comme ça. Ils en demandent beaucoup,
c'est, ouais, c'est pas cool.
Ouais. Mais il y a beaucoup de talent, là, Jonathan Bernier, puis je suis sûr qu'il va devenir un numéro 1, sauf qu'il n'a jamais prouvé à 100% encore. Puis justement, tu sais, je comprends pas trop le principe. De on attend, mais on ne donne pas tant de départ. Puis...
Ben, je pense peut-être qu'ils voulaient. Peut-être qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient pour. Puis en même temps, ils ont dit ben, on n'a pas nécessairement un backup de qualité pour épauler Quick. Je sais pas, là, mais c'est sûr que je vais t'avouer. Écoute, imagines-tu, là, 80. Tu sais, quand, mettons, comme Peter Budaj, là. Peter Budaj, il veut être gardien numéro 2 parce qu'il a déjà été gardien numéro 1, puis ça a plus ou moins bien été. Fait que là, il s'est résilié, puis il s'est dit, ben écoute, moi, je vais être gardien numéro 2, je vais avoir du fun d'être gardien numéro 2. Mais quand t'as 20, une vingtaine d'années, là, ou même si, mettons, Bernier avait eu 30 ans, puis ça avait été encore un numéro 1 de qualité, passer 82 matchs sur un banc, là, attendre, là, c'est long en tabarouette. Là. N'importe quel job, quand tu fais juste attendre que la journée finisse, c'est plate. Fait que, t'sais, je sais,
ouais. Puis en moyenne, il joue entre 12-15 parties par saison. Là, donc, sur un 82 parties, c'est long. Ça.
All right. Parlant de trouver le temps long, je vais aller juste rapidement avec mon dernier softy. C'est Torrey Krug qui doit trouver le temps long en tabarouette à la défense parce que le jeune est exceptionnel, a beaucoup de talent et tout, mais l'expérience, ça s'achète pas, c'est plate. Ça serait le fun si ça pouvait s'acheter de l'expérience, mais ça s'achète pas. Puis là, il est en train d'apprendre sur le tas. Puis il apprend que jouer dans la Ligue nationale dans une finale de Coupe Stanley, quand t'as pas beaucoup d'expérience, ben c'est difficile. Fait que il écope, puis il se fait couper du temps de jeu par Claude Julien. Une bonne décision, mais écoutez, ça doit être un peu frustrant si je me mets à sa place. Fait que c'était mon dernier softy.
Non, mais c'est ça, il est arrivé avec quand même un gros bang, puis ça doit quand même être dur pour lui de se faire bencher présentement, mais bon, il est encore jeune, puis sa carrière est pas finie, puis. T'sais, il y a au moins encore une bonne 10-15 ans devant lui, donc il va apprendre de ça. Moi, pour mon dernier softie, je vais y aller avec le contrat que Mark Streit a reçu de la part de Philadelphie. Je trouve que pour un joueur de 35 ans, un contrat de 4 ans à environ 5,25 millions par année, je crois, c'est un peu trop donné pour ce joueur-là. On en a parlé en plus la semaine dernière qu'il avait été échangé les droits, mais je croyais pas qu'il allait recevoir ce genre de contrat-là. Je croyais qu'il allait s'entendre peut-être pour 4 millions dans cette rangée-là. Mais comme tu sais, je comprends pas qu'est-ce que les Flyers font. Puis on dirait qu'ils vont tout le temps dépenser de l'argent un peu comme les Rangers. Puis je suis pas un fan de leur manière de bâtir des équipes.
Parfait. Ben moi aussi, je vais y aller. Ah, 3-3, directeur général des Flyers de Philadelphie, Paul Holmgren, en ce moment, l'équipe est à 8 millions au-dessus de la masse salariale. Donc, il va falloir qu'il fasse de la magie. C'est tout ce que j'ai à dire, de la magie.
Pas fort, son affaire.
Pas très fort. Hein?
C'est bon. Excellent, les gars. Sur ce, hein, on va terminer les softies. Je vais arrêter ma musique. Hein, oui, je sais, je suis fatigué avec cette phrase-là. Mais bon, pareil, je l'ai dit quand même, ça m'aide à faire une belle petite transition. Et nous allons enchaîner avec les débats de cette semaine qui, je crois, seront super intéressants. Alors, messieurs, cette semaine, j'ai des super débats à vous proposer. Puis on va commencer par... là, on a commencé à en parler un petit peu. Je vous ai posé la question en commençant le show. On va commencer avec ça. Seth Jones de l'Avalanche Colorado. Est-ce que vous pensez que l'Avalanche Colorado raterait son coup si elle ne choisissait pas Seth Jones au premier rang durant le repêchage qui s'effectuera le 30 juin?
Bien, moi, je pense que ça serait vraiment un mauvais choix, carrément, parce que Seth Jones, il l'a dit, ça fait longtemps, en plus, avant même que cette année commence, que depuis qu'il est jeune, c'est un fan de l'Avalanche, il vient de Denver, parce que son père, c'est un joueur pour les Nuggets de Denver, dans la NBA, c'était Popeye Jones, puis, dans le fond, il a commencé à jouer au hockey, parce que Popeye Jones, il avait croisé Joe Sakic, justement, dans un corridor, puis que c'est comme devenu son idole, puis qu'il a commencé à jouer au hockey à cause de Joe Sakic. Puis là, Joe Sakic, il va dire qu'il veut pas repêcher Seth Jones. Je trouve ça carrément ridicule. Je comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Là.
Ben, plus, je te pose la question. Moi non plus, honnêtement, là, je vois. J'essaie de comprendre, puis je vois pas vraiment ce qu'il y a en arrière de ça. Est-ce que tu vois. Est-ce que
moi,
c'est
je pense
une stratégie?
Qu'il essaie de jouer une game, puis que, dans le fond, il se dit que peut-être que la Floride va essayer de m'échanger quelque chose de bon pour pouvoir repêcher en premier pour aller chercher Nathan MacKinnon parce que je fais comme une menace de prendre Seth Jones. Je fais une menace de prendre Nathan MacKinnon, Jonathan Drouin ou Alexander Barkov, c'est ça qu'il a dit.
Ouais.
En fond, il allait regarder pour l'offensive et pas pour la défensive, mais en même temps, je trouve qu'ils ont besoin d'un bon défenseur de franchise parce que Eric Johnson, c'est pas le joueur que le monde s'attendait de lui. C'est tout le temps un peu touché de repêcher un défenseur au premier rang.
Mais est-ce que tu trouves que ça fait stratégie d'enfant de maternelle, là? Oh, c'est, je ne choisirai pas Seth Jones comme premier choix. Tu sais, comme pour. C'est comme une espèce d'appât, mais que tout le monde voit, là. C'est genre. Comment je pourrais dire ça? Je fais une menterie puis je croise mes doigts sur le bord, là, tu sais, puis que tout le monde les voit, là. Je veux dire,
je pense qu'il essaie de gagner quelque chose de ça, mais dans le fond, il est juste en train de détruire sa crédibilité alors qu'il vient juste d'arriver.
Il me semble que ça fait Pierre Gauthier.
Oh, tu vas bas, là.
Ben, ça me tentait de la dire, mais.
Ok.
Simon?
Ouais, pendant ce malaise-là. Moi, je pense pas que Seth Jones est si exceptionnellement au-dessus des autres joueurs de McKinnon ou même Jonathan Drouin à la limite s'il décide d'aller avec lui. Je pense pas que la différence entre un et l'autre est si exceptionnelle au point de dire que Colorado fait le pire move puis ils vont détruire leur futur ou quoi que ce soit. Tu sais, oui, c'est un. Il y a un bon futur devant lui, mais on pense en même temps, si on regarde toutes les. C'est quand même touché un défenseur, comme que Benoît a dit. Là, c'est, défenseur, c'est une position qui est. C'est dur, ça prend du temps. Un bon défenseur, c'est rare qu'il va arriver à 18 ans dans la Ligue nationale.
Mais Seth Jones va jouer 15 ans dans la Ligue nationale, assuré. Ben, assuré, OK. Je peux pas prédire le futur, là, mais.
Moi, oui, j'entends ça avec Monsieur Daigle.
Ouais, ok, ouais, mais Seth Jones.
Il a l'air d'avoir la tête à bonne place.
Oui, c'est ça, il a l'air d'avoir la tête à bonne place.
Il a l'air d'aimer le hockey.
Premièrement, c'est tout un athlète, ok, à shape qu'il a, à grandeur qu'il a. C'est tout un athlète, c'est tout un patineur, puis en plus, je suis persuadé, tu sais, je veux dire, l'attaque là, au hockey, ça part de la défense. Si tes défenseurs sont capables de faire une bonne première passe à tes attaquants qui sont en mouvement, ben tu rentres plus facilement dans. Je veux dire, si t'as pas de défenseur, selon moi, tu peux pas faire grand-chose. C'est bien beau avoir les meilleurs attaquants dans la ligue. Tu peux quand même t'en sortir avec une gang de plombiers, là. Si t'as une bonne défense, là, pis t'as une gang de plombiers qui travaille fort, ben tu vas être capable de compter des buts pareil. Mais tu sais, je veux dire, si t'as pas de défenseurs qui sont pas capables de protéger ton gardien de but, puis qu'en même temps, ils sont pas capables de relancer l'attaque, ben t'es un peu dans la merde. Fait que je vois pas comment que tu peux cracher sur un défenseur, surtout dans la Ligue nationale d'aujourd'hui qui est transition, vitesse.
Je pense pas que c'est cracher nécessairement. Là. Cracher, ça serait d'échanger le premier choix puis d'aller chercher, on va dire, un choix dans 20 et plus bas. Là. Mais prendre qu'un attaquant qui est considéré comme deuxième ou troisième au lieu d'un défenseur qui est considéré comme le premier dans la liste du repêchage, mais qui ont tout un futur qui est quand même...
Puis Jonathan Drouin puis Nathan McKinnon, monsieur combien?
Je sais pas.
5 et 11 chaque.
Hein? Sidney Crosby.
5 et 11
Jonathan
chaque.
Jonathan Taves, Patrick Kane, il mesure combien? Sidney Crosby mesure combien?
Justement, qui domine? Je veux dire... OK, Sidney Crosby.
OK, Krejci mesure combien?
Ouais, mais Krejci joue avec Lucic puis Nathan.
Ben non, ouais, mais.
Nathan Horton, je veux dire, ça l'aide un peu. Le Crosby joue avec qui? Là? Il joue-tu avec Zdeno Chara, Crosby? Non, il joue pas avec un. Il joue pas avec des toughs, là. Tu sais, je veux dire. Je sais, là, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que ça n'a pas. Moi, je pense qu'en saison régulière, ça n'a pas rapport. Tu peux être 5 pieds 11, tu peux être 4 pieds 2, ça n'a aucun rapport. Mais je pense que plus t'es tough, mieux c'est en série.
Puis ouais, si mettons. En même temps, je dirais que McKinnon, c'est le genre de joueur qui va. T'sais, il va tout en filet, puis il a de la hargne au combat. Il est combatif. Puis, c'est le genre de joueur, je sais que j'aimerais mieux que Colorado repêche Seth Jones, mais en même temps, il ne faut pas rien enlever à Nathan McKinnon, que je dirais qu'il pourrait être également être le premier. Ce serait pas un mauvais choix en tant que tel, c'est juste que l'histoire est tellement belle, puis il y aurait besoin d'un joueur comme ça, que je comprends pas pourquoi il se passerait par-dessus ça. Donc,
non.
C'est pas fort.
Non, c'est vrai. Ça, j'avoue que pour l'histoire, en même temps, je
tu sais, des fois... Ouais, mais tu sais, une équipe va pas...
Non, mais tu sais, je veux dire, en même temps, tu vas créer... Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a une partie marketing. Je veux dire, tout est...
Ouais, mais c'est quand même, le marketing est important au Colorado. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il était arrivé, ils ont gagné la Coupe Stanley, il y avait une très bonne équipe. Puis là, tu sais, depuis quelques années, ils sont en déclin, carrément, puis il faut qu'il y ait quelque chose qui va les remonter au top, puis que...
Je suis d'accord, mais d'abord, on va dire canadiens, tu sais, est-ce qu'ils sont... si on a le choix entre un Québécois ou un autre joueur un peu meilleur, ben là, c'est Will Seth Jones, il est considéré meilleur. Là.
Un peu meilleur ou beaucoup meilleur?
Non, mais dans le sens que Seth Jones, je pense pas qu'il est beaucoup meilleur que les autres, que McKinnon ou que même Drouin, là, je veux dire.
Ouais, mais non, mais là, c'est parce que, ouais, là, c'est parce qu'on parle pas de Drouin, c'est un défenseur.
Non, mais je veux dire, tu sais, vous parlez de l'histoire, puis là, tu sais, il vient du Colorado, puis tout, mais je veux dire. À Montréal, le monde, ça chiale. Il y en a qui disent « Ah, oh, faudrait repêcher des Québécois. » Puis il y en a d'autres qui disent « Ben non, on prend le meilleur joueur possible. » Tout. C'est un peu la même guerre là, en ce moment. Là. Ouais, on
j'aimerais
va...
pas qu'on ait le premier choix cette année. Ça serait fou.
Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que le monde se battrait pour...
À savoir c'est qui des trois qu'on va prendre.
Moi, c'est unanime avec le line-up. Avec l'alignement du Canadien présentement, c'est sûr que je prends Seth Jones.
Ah ouais?
Ah, oh, assuré.
Je vais avec Jonathan Drouin numéro un, là.
Moi, je vais avec McKinnon.
Bon. Ah ouais, bon, mais on a chacun un choix.
On a chacun notre choix.
Ouais, mais moi, je pense que le Canadien est trop faible, moi, en défensive. Puis, je vois déjà piquer Subban, puis...
mais regarde notre relève à la défensive. On a bien plus de relève défensivement qu'offensive. Ouais,
mais selon moi, Seth Jones, c'est le parfait numéro 2. Ça va être un... Tu sais, ça sera pas un gars qui va te compter des buts, nécessairement. Mais Seth Jones, ça va être... écoute, un... Oh. Peut-être pas un genre de Chara, mais sans, tu sais, je veux dire, plus athlétique. Là. Il sera pas aussi robuste que Chara, mais tu sais, il va tellement être impliqué dans chaque phase du jeu. T'sais. Moi, je suis vendu à Seth Jones 100 000 à l'heure. C'est clair que je le prends en premier.
Sûr, mais en même temps, moi, je pourrais voir évidemment Galchenyuk et McKinnon sur une ligne pour les 15 prochaines années. J'aimerais vraiment ça.
Ok, ouais, c'est vrai, c'est un bon point. Non.
Moi, j'aime mieux Jonathan Drouin parce que c'est un Québécois. Puis, comme que tu parles, Seth Jones, il vient du Colorado, puis tout, puis il va se forcer là-bas parce qu'il vient de là-bas. Mais je pense que c'est le même principe qu'un Québécois qui vient jouer. Puis là, tu sais, je parle pas d'un Québécois sans rien y enlever, mais tu sais, un Steve Bégin ou un Mathieu Darche qui sont excellents sur un quatrième trio. Mais on parle d'un Québécois qui est considéré qui peut être l'avenir de n'importe quelle équipe de la Ligue.
Ouais, en même temps, j'enlève rien à Drouin. Là, il a prouvé qu'il avait sûrement le meilleur talent offensif dans tout le repêchage.
Vous voyez, je vous écoute parler les gars, puis je suis en train de me dire que Joe Sakic, d'après moi, il va vraiment
va virer fou.
Va vraiment prendre quelqu'un d'autre que Seth Jones. D'après moi, là, il va vraiment. D'après moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait avec Nathan McKinnon, honnêtement, là.
Puis il y a aussi Drouin, la part de Patrick Roy là-dedans, là. Il connaît McKinnon, il connaît Drouin.
Ben, je vous pose la question, entre Jonathan Drouin et Nathan McKinnon, qui c'est que vous prenez?
Ben, comme que je dis, moi, ça serait Jonathan Drouin. Est-ce que c'est parce que...
OK, c'est...
Est-ce que c'est parce qu'il est Québécois? Ben, pour le Canadien, je prendrais Drouin en premier.
Ouais, c'est sûr que... Ah, ça serait tellement dur de choisir entre les deux.
Bon, c'est bon. On va laisser ça mort pour...
Parce que Drouin, il me fait tellement penser à Patrice Bergeron que...
Mais
il sort même pas de nulle part. Là. Il a toujours été considéré bon, mais, tu sais, depuis un an et demi environ, là... L'évolution qu'il fait, c'est exceptionnel.
Mais c'est encore mieux que Patrice Bergeron parce que
Bergeron était quand même considéré en deuxième ronde. Mais je pense que ça l'a beaucoup aidé. Là. Les dépisteurs, depuis Bergeron, ils font encore plus attention et ils donnent plus de valeur à un joueur qui évolue rapidement.
Je pense que Claude Giroux, ça a été un des meilleurs exemples également là, pour ça.
Exactement.
Parce qu'il avait été dans la Ligue de l'Ontario. Tout le monde l'a laissé passer au ballottage, puis il a dû venir dans la LHJMQ pour faire son année, je pense, de 17 ans avec Gatineau. Puis dans le fond, il a été repêché en première ronde par la suite parce qu'il avait beaucoup de talent, mais personne n'y avait laissé une chance à cause de son coup de patin, puis il a amélioré son coup de patin, puis il est devenu le joueur qu'on connaît aujourd'hui.
Donc,
écoutez, jamais le savoir avec un jeune prospect.
C'est la magie du repêchage, c'est que on va juste s'en reparler... dans un an, ou même, d'après moi,
au milieu de l'année prochaine. C'est dans 5 ans. Là.
C'est ça. Puis, fait, c'est tout le temps facile de dire 5 ans plus tard, on aurait dû prendre lui. Mais...
Bon, ouais.
Mais bref, présentement, on a le débat, puis on ne sait pas qui prendre. Donc...
On va tenir ça mort pour l'instant, puis on va s'en reparler au milieu de la saison prochaine. Là. J'ai hâte qu'on s'en reparle de ça.
Je pense que c'est 3 valeurs sûres.
Oui. Dans le fond, il n'y a personne qui est perdant. Les trois premières positions ne seront pas perdantes. Là, pantoute,
non,
là.
Ça, c'est sûr. Ouais.
Excellent. Juste en terminant, vite, les agents libres, je dis vite, mais dans le fond, on peut s'étirer quand même un petit peu. Qui pensez-vous qui va atterrir où? C'est quoi les rumeurs? Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez lu? On en a parlé un petit peu hors d'onde. Qui veut commencer? Oh boy.
Oh. Hein? Ah, mais c'est dur, là. C'est dur à dire.
Parce qu'on a parlé de Christopher Le Temps tantôt.
Ouais.
Ouais, mais il y a encore.
Il
y avait une restriction, justement. Puis, ils veulent l'échanger, ils veulent pas. Il sera pas agent libre. Vraiment.
Mais ce que je trouve pas exceptionnel, là, pas à ce point-là, là, mais ce qui est le fun cette année, c'est qu'avec les rachats de contrats, ça, tout peut arriver sans qu'on s'y attende. Là.
Non, c'est
une équipe peut racheter un gros contrat puis en signer un autre gros joueur puis tout. Tandis qu'avant, on regardait une équipe comme là, Philadelphia en ce moment, qui sont déjà 8 millions au-dessus. OK, c'est sûr que certains, eux autres, sont obligés de vendre et tout. Puis, ils sont faits. Mais à cette heure, s'ils rachètent deux gros contrats, ils ont quand même un peu d'argent. Puis, fait que, tu sais, il y a beaucoup de trucs là, en ce moment qu'on peut.
Non, mais moi, j'ai lu.
Je suis dans balance.
Une rumeur avec Vincent Lecavalier qui ont dit qu'il va se faire racheter. Mais que Toronto serait vraiment intéressé à le signer.
Puis, je te pose la question, Ben, es-tu fini Vincent Lecavalier ou il n'est pas fini?
Je pense pas qu'il est fini. C'est juste que c'est plus le joueur qui était quand il a signé son gros contrat. T'sais, c'était une saison qui, je crois qu'il avait eu 100 points en plus. Il avait quasiment eu 50 buts dans ces environs-là.
En même temps,
il avait pas toute valeur. C'était un des meilleurs joueurs dans la ligue dans ce temps-là. C'était avant que Sidney Crosby arrive ou c'était presque rendu là.
Puis Vincent Lecavalier.
Ça fait longtemps là, quand même. Là. Mais
tu joues avec qui dans les dernières années, là, je veux dire.
Ouais, non, je suis d'accord.
Il met quand même en moyenne pratiquement un petit peu moins qu'un point par match, mais il est toujours proche, là. Il est toujours à au moins.
Mais il est souvent blessé.
Ben, pas tant que ça, là. Non, pas tant que ça, là. Il manque peut-être un
15-20 par
maximum. Toujours blessé au poignet, puis toujours au bras, puis.
C'est juste. Ouais, mais justement, c'est ça qui en déclin depuis quelques années.
Saisons, hein. Mais tu sais, il parle pas des saisons complètes ou quoi que ce soit, là. Je veux dire, il est blessé, là, dans les. Trois dernières années, là, il a manqué. Genre, dans chaque année, il a manqué moins que 20 matchs. Hein.
Ouais. Puis en même temps, c'est Steven Stamkos qui joue avec Martin Saint-Louis maintenant.
Exactement.
C'est
plus, là, fait que, il joue avec Teddy Purcell, je pense.
Ouais, non, j'avoue que Teddy Purcell.
Il fait un bon travail, là, mais c'est
Vincent
pas.
Vincent s'est produit, mais c'est pas.
C'est pas comme des années qu'il joue avec Saint-Louis ou qu'il joue avec Brad Richards. Ou...
Ok. Vincent Lecavalier, puis là, tu me dis que Toronto, Ben, vous serez peut-être intéressé. Mais Toronto est toujours intéressé. Là.
Ouais. Ils ont besoin d'un gros centre.
Ouais. Parce que là, il y a juste Cassol. Cassol joue au centre, joue à l'aile.
Il joue à l'aile.
Ok, c'est ça.
Fait juste que là, c'est Bozak, leur premier centre. C'est juste que là, ils demandent très cher après la saison qu'il y a eu l'année dernière. Donc, il va être agent libre. Il est UFA également. Donc, il a vraiment tenu la meilleure saison qu'il pouvait avoir pour. C'est faire monter les enchères. Donc,
mais c'est là que je. Tu sais, là, tout le monde parle de faire monter les enchères. Tu sais, moi aussi, j'ai lu sur Tyler Bozak comme quoi que dans ses négociations avec les Leafs, il voulait vraiment gagner à peu près 5-6 millions par année. Puis je me dis, écoute, tu t'apprends pas là, des gars comme Lecavalier, des gars comme Daniel Brière, des gars, tu sais, je veux dire, des gars que c'est comme Brice Galov, n'importe quel type de joueur, à n'importe quelle position, aussitôt que ça signe un contrat. D'à peu près 6-7 ans, là, avec 6-7 millions par année, ben le gars il produit plus parce que, premièrement, dans sa tête, il s'assied sur son steak parce qu'il se dit, ben là, je gagne de l'argent, mon but, ma vie est faite. Puis en même temps, ben là, il se dit, ben là, j'ai la pression, puis là, faut que je sois meilleur. Puis, écoute, là, c'est. Je veux dire, moi, je serais joueur de hockey, mais il me semble que je signerais un contrat dans la moyenne, là, puis je signerais ça à coup de 3-4 ans, puis au pire, je déménagerais aux 3-4 ans, là, mais tu sais, je veux dire.
Ben, je suis pas sûr si tout le monde tu penses comme ça, mais bon.
Ou tu sais, est-ce que c'est vraiment les joueurs qui décident ou c'est plus les agents? Là, tu sais, c'est,
mais présentement, là, tu signes un contrat à 4 millions ou à 3 millions, tu te fais pas écœurer. On s'entend-tu? 3 millions, ouais. Tu te fais pas écœurer. René Bourque se fait pas écœurer. Là. C'est fait ben, un petit peu écœurer au début de la saison, mais il produit un peu, paf, tout le monde était bien content de lui.
Ouais.
3 millions, t'es une aubaine.
Ouais. Ouais, ça c'est sûr.
Ben, pour un deux, sur les deux premiers trios, là. 3 millions pour un quatrième trio.
Non, mais pour ces deux premiers, tu joues sur le deuxième trio, là, tu coûtes 3 millions, là, 500 000, là, t'es crampé bien raide. Là.
Ouais. C'est un bon salaire pour ce genre de joueur.
Ou tu t'arranges pour savoir qui, mais ça me regarde, là, bon, qui gagne de l'argent dans l'équipe. Là? Bon, mettons Stamkos, il gagne tant. OK, là, Saint-Louis gagne tant. Bon, moi, est-ce que je vais être au-dessus de ces gars-là? Si je suis au-dessus, c'est moi qui vais avoir la pression en premier avant ces gars-là. Ou je vais être en. Tu sais, je. À un moment donné, faut que tu. Où je suis capable de prendre la pression puis être le gars qui a le plus de pression dans le club. Parce qu'on s'entend que le gars le plus payé dans le club va toujours avoir le plus de pression. Alors regardez, là, je suis juste sur ma page de Cap Geek, là, puis je regarde l'Avalanche du Colorado. Le plus payé dans les attaquants, c'est Paul Stastny. Ça fait combien de temps que le Colorado dit « On va échanger Paul Stastny! » Tu sais, pourquoi? Parce que c'est lui qui gagne le plus cher, puis il répond supposément pas aux attentes. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, faut que tu saches combien que tu veux gagner, puis combien que tu es prêt à produire par rapport à ce montant-là aussi. Là.
Ouais, combien mais rendu là, tu sais, quand que, tu parles de millions que tu peux avoir dans les poches, ça, je sais pas si tu as vraiment cette. Je pense pas que tu as vraiment. Ah non, je suis prêt à cracher sur 2 millions par année parce que je veux pas de pression.
Non, non, je sais que c'est facile de dire ça de mon côté parce que je gagne pas 6 millions 600 000 par année. Là. Malheureusement.
Moins les taxes.
Ouais, moins les taxes. Écoute, je suis très loin de gagner ça. Mais bon. Non, non.
Tu sais, je suis d'accord avec toi que logiquement, ça devrait être comme ça qu'ils pensent. Mais, tu sais, on pense à un Scott Gomez quand il s'est fait offrir son gros contrat. Je pense pas qu'il s'est dit il s'en rend pas compte, mais je viens d'avoir une année chanceuse, là, je devrais leur dire ben non.
Ben non,
accepte ton gros contrat, puis à la limite, ouais, tu vas te faire taper ses doigts, mais ok, tape-moi ouais. ses doigts, puis je vais me payer psy à 1 million par heure. Puis,
Scott Gomez est en dépression 2 ans, puis il joue plus au hockey l'année prochaine.
Ouais, mais.
Peine en tabarouette.
Mais il est millionnaire, puis ouais, il doit avoir un bon fond.
L'argent ne fait pas le bonheur, les gars.
Je parle pas du bonheur, hein, mais ça fait une maison puis une couple de trucs. Là.
Puis, on pourrait peut-être également parler des Oilers. J'en ai parlé la semaine dernière. Ouais. Je vais peut-être résumer un peu ce que j'ai dit. Là. Mais tu sais, ils ont encore environ 20 millions sur le cap. Puis ils pourraient facilement en racheter Sean Arkoff, qui fait 5,5 millions par année. Puis Alex Hemschy, qui fait également 5 millions. Fait, ils pourraient aller jusqu'à 30 millions de libres sur la masse. Puis ils ont dit publiquement qu'ils recherchaient des attaquants de puissance. Et t'as David Clarkson, Ryan Klo, Nathan Horton, puis Brian Bechtel qui sont tous libres cet été. Toutes les équipes vont sauter sur ces joueurs-là, sauf que ça va être lui qui va donner le plus d'argent qu'il va gagner.
Nathan Horton, il va juste re-signer avec Boston, non? Hein?
Ben,
oui.
C'est encore drôle, ils ont-tu la place pour le re-signer?
Ben oui, puis en même temps, Jagr, il va pas être là.
Parce que je crois que Bergeron, il faut qu'il signe une extension bientôt.
Mais, excuse de déroger de sujet. Ben, je te pose la question. Est-ce que tu crois que les Oilers, ce qu'ils ont besoin, c'est des joueurs ou c'est un espèce de petit...
Ben, c'est des leaders, mais en même temps, il faut qu'il y ait des bons joueurs qui vont supporter ces jeunes-là parce que ils peuvent pas tout prendre la pression offensive sur les épaules parce qu'il faut qu'ils affrontent les meilleurs trios chaque soir. Donc, si tu peux avoir des gros attaquants de puissance qui vont pouvoir aller contre les meilleurs défenseurs des autres équipes, ça va un peu donner de lousse à les Jordan Eberle, Taylor Hall, Ryan Nugent-Hopkins puis Neil Yakupov. Ça serait parfait pour le développement de ces jeunes joueurs-là. C'est pour ça que souvent on dit qu'il faut pas les amener trop vite parce que si tu les amènes trop vite puis tu les mets tout de suite sur le premier trio, ils pourront pas faire grand-chose contre les meilleurs défenseurs de la Ligue. Donc... je pense que ce serait bon qu'ils puissent aller chercher des gros joueurs qui sont durs à jouer contre
puis,
pour affronter les meilleurs.
Est-ce que les Oilers, là, c'est officiel là, qu'ils changent d'aréna ou est-ce que c'est pas encore officiel? Parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait un débat avec la ville d'Edmonton pour construire un nouvel amphithéâtre. Parce qu'il y a ça, ça a l'air niaiseux, là, mais il y a ça aussi qui joue en ligne de compte. Dans quel genre d'environnement tu vas travailler pour un joueur de hockey? Là, je me rappelle que ça a fait le bonheur de tous les joueurs quand que le Canadien de Montréal a construit la place Belle là, à Brossard là, pour le nouveau centre d'entraînement avec le nouvel équipement, puis tu sais, une place super high-tech, puis une place pour manger, puis tout, parce qu'avant ça, il était tout tassé dans le centre Belle parce qu'il y avait juste une pièce où il pouvait tout faire. Tu sais, je veux dire, ça a l'air niaiseux, mais tu sais, je veux dire, tu sais, comme mettons, là, tu joues pour les Islanders de New York, tu arrives à l'aréna, puis les routes te courent après, là, je veux dire. C'est quand même pas le fun, là. Tu dis pas, oh, j'aime tellement mon environnement de travail.
Non, c'est sûr.
T'sais, c'est tout le temps le fun de jouer devant une belle place, puis t'sais, dans une belle place, devant des beaux sièges, puis tout, une belle aréna, puis t'sais, avec un beau pro shop. Hein? Oh, tabarouette.
Oh, ah, quand même.
Non, mais tu sais, qu'avoir plus d'équipement, puis t'sais, se sentir comme chez eux, là. T'sais, pas dans une espèce de dompe où c'est tout crotté, puis tout sale. Là.
Ouais. Mais sinon, je vais peut-être dévier un peu, là, mais je revenais sur ce qu'on parlait. Là. Je vous demande, votre avis. D'après vous autres, dans les agents libres, Mike Ribeiro, Pascal Dupuis, je vais descendre un peu, Derek Roy. Il y a aussi dans les Québécois là, que je parle, Mason Raymond, je pense qu'il est Montréalais. Mason Raymond. Pierre-Marc Bouchard.
Je penserais pas.
Non, mais est-ce qu'il y en a là-dedans que, qui pourrait être intéressant pour le Canadien? Ben, pensez-vous qu'ils vont faire des offres pour...
Ben, moi, j'aimerais bien Pascal Dupuis, mais ça va dépendre de combien il va demander.
À très, très bas prix, moi, je suis d'accord, mais je...
Dupuis, c'est sûr que c'est un 4 millions minimum qu'il va demander.
J'investirais même pas 4 millions.
Pour non, moi non plus, mais c'est ça qu'il va demander, d'après moi. Ça ou un 3 millions sur plusieurs années, là, ça.
Toi, Ben, combien tu signerais tes... Parce que je pense pas que le Canadien est dans une position pour...
C'est pas le genre de joueur qu'on a besoin présentement.
C'est ça.
Moi, je recherchais un genre de... Board Jordan, peut-être. Un genre de joueur de bottom line, sur la 3e, 4e.
Et bottom 6.
Ouais, c'est ça. Puis, j'essaierais également avec les 4 attaquants de puissance que j'ai mentionnés juste avant, parce que c'est le genre de joueur que le Montréal a besoin présentement. On peut pas se cacher, ça.
Sinon, est-ce qu'on donne une chance à Sakuka et vous?
Non.
Ben moi, je dirais oui.
Pour jouer où?
Non, c'est vrai, honnêtement.
Troisième trio à la place de Darnay.
Ouais, OK. À 2 millions par année, pas de problème. Mais Sakuka et vous ne prendra pas 2 millions par année.
Bon, même si peut-être, là, pour une dernière année, là, tu peux accepter de rejouer dans l'équipe qui t'a donné une chance pour 2 millions. Là.
Tu penses?
Ben, je joue à 3 millions par année présentement.
Ouais, c'est ça. Il y en a gros, là, des joueurs là, dans leur dernière année, ils vont jouer pour 1,5, 2, 2,5. Là, fait que c'est pas super, mais je pense pas que.
Est-ce que tu penses. OK, je vous repose la question contraire. Est-ce que vous pensez que Sakuka et vous, ça y tente de revenir à Montréal?
Ben, moi, je pense qu'avec le nouvel environnement, ils diraient pas non.
Ouais, ça y tente, mais c'est juste c'est tellement différent. Là. Tu as été capitaine, là, tu reviens, tu n'es plus capitaine, il y a toute une nouvelle équipe. Ouais, nouveau coach, pis tout, c'est plus la même affaire.
Tu vas à l'aréna en Gogun, pis là, tu irais plus à l'aréna en Gogun.
Ouais, je pense qu'il est habitué à ça. C'est pas facile.
Ouais, mais en même temps, là, je pense que juste de l'autre côté, je pense pas que le Canadien va y offrir un contrat. Je pense pas qu'ils vont tasser des harnais, qu'ils viennent de signer une extension, pis que.
Ben, je serais pas surpris qu'on le voit se faire échanger, moi, David Darnay.
Ouais, mais comme on a déjà parlé, là, on va rien avoir pour lui. Là. Je pense pas que ça soit vraiment intéressant de.
Ouais, on a rien genre de joueur à voir et tout.
Ouais, mais je veux dire, ça sert à rien de l'échanger.
On va avoir un jackstrap blanc puis 12 bâtons d'or.
Ouais, moi, je suis sûr qu'on peut avoir un choix repêchage.
Ouais, mais un choix de 3e, 4e.
Hein? 5e ronde, c'est ça, je te dis. 12 bâtons d'hockey puis un jackstrap blanc.
Fait que, OK, vous pensez que Desharnais ne vaut pas plus qu'un choix de 4e ronde? On serait plus gagnant, les Canadiens, à avoir un choix de 4e ronde que David Desharnais pour la saison 2030.
Moi, je pense que Marc Bergevin 2014. A fait une mauvaise affaire en signant à 3,5
millions. En même temps, je pense pas. Son point de presse a dit que Desharnais, il va falloir qu'il joue mieux l'année prochaine. Ouais. Je pense pas qu'il va l'échanger après. Ouais, il a sa crédibilité.
Il va le toffer, là, puis il va s'assurer qu'il y ait une bonne saison. Puis j'imagine que David Darnay.
Il va mieux l'entourer aussi l'année prochaine.
Il est assez orgueilleux, ce petit gars-là, que là, il doit être en train de patiner comme un malade. Là, il doit être en train de sauver entraîner. Je suis pas mal sûr. Là, fait que c'est fort probablement qu'il va connaître une bonne saison. Moi, c'est juste que j'ai de la misère avec ce genre de joueur-là pendant les séries. Pendant les saisons régulières, David Darnay tape pas du tout ses nerfs. Je trouve que pendant les séries, par contre, quand tu rencontres des grosses équipes bâties pour les séries, je trouve que ce genre de joueur-là perd à peu près 45% de son efficacité. Puis c'est là où c'est j'en ai. C'est pas contre le gars, puis c'est pas contre son jeu pendant la saison régulière. C'est juste pendant les séries, je le trouve un peu inefficace.
Ouais, mais il faut qu'il soit mieux entouré aussi, là, ça.
Ouais.
Mais en même temps, je dirais pas que c'est la fin pour lui. Il est encore jeune, puis il va apprendre.
Si on tire la plug sur lui en ce moment, à cause qu'il a connu une mauvaise moitié de...
On va le regretter dans 2-3
Une saison qui a été une moitié, puis qu'il y a plein de monde qui a eu de la misère, là. C'est ridicule un peu. Là,
on ne sait même pas qu'est-ce que le monde peut donner pour 82 matchs encore. Enfin, c'est dur de juger nos joueurs sur une saison de 48 matchs.
Ouais, il a connu une bonne saison avant, puis là, il connaît une mauvaise mi-saison. T'sais, je trouve que c'est un peu exagéré si on dit on devrait avoir un choix de 4e ronde pour lui. Puis il est fini. Il a 20, 6 ans, mais il est fini.
Oh. Est-ce qu'on va chercher l'attaquant de puissance, Guillaume, la tendresse?
Jamais de la vie, je déteste. Ben, je déteste. En fait, j'aime pas le
style de jeu.
L'éthique de travail. C'est le plus poliment que je peux être là, avec ce gars-là, c'est
ouais, ça. C'est vrai.
Est-ce qu'on va chercher
des années que tout le monde ne
dure pas? Excusez, je ne l'ai pas entendu. Ben, qu'est-ce que tu as dit?
Ben moi, j'ai dit que ça fait des années que le monde lui reproche son éthique de travail. Il doit le savoir lui aussi, à force de se le faire dire, puis il n'a pas vraiment rien changé.
Je pense qu'il est immature, puis ça finit là. Je pense que c'est encore un gros bébé qui joue dans la Ligue nationale, puis qu'il a de la misère à faire la transition de l'adolescent au professionnel, selon moi. Mais ça,
sauf qu'à 26 ans, il est rendu un jeune vétéran. Là, donc...
Ouais, merde. C'est bon. Mais c'est pas, je pense... Je sais pas, je pense que c'est le manque de focus, le manque d'objectif, de but qui manque à Guillaume Latendresse, tout simplement.
Sinon, Maxime Lapierre. Hein.
Oui, Maxime Lapierre, je le
prendrais. Ouais. Moi, je le reprendrai.
Maxime Lapierre, c'est un gars qui travaille énormément fort, qui a un excellent patin. Moi, comme troisième centre ou comme quatrième centre, je vais le prendre demain matin.
Je suis bien d'accord avec Brendan Prost aussi, là, il pourrait avoir un beau...
Sinon, quel genre de joueur que vous aimeriez voir?
Mais moi, je veux un genre de... Moi, c'est un genre de Brian Bickle. C'est Brian Bickle que je veux à Montréal. Je veux dire, ça me prend un gros gars capable de se battre, capable de défendre ses coéquipiers. Puis, tu sais, mettons, rajoute un Maxime Lapierre avec lui, puis Brandon Prost, puis Travis Moen. C'est sûr que un genre de gars qui ça ne dérange pas de se battre, mais qui est meilleur que Ryan White, puis qui est plus gros que Ryan White. T'sais.
Ouais. Je pense aussi qu'il nous faudrait un bon top 4 défenseur. Hein.
Ouais, aussi.
Puis, pour bien simplifier. Tiens, je veux dire que tu as un joueur comme Brian Bickle qui va se battre, mais je peux te dire que.
Il se bat pas.
Ouais, dans les trois dernières années, il y a 5 batailles.
Ouais, mais pas nécessairement une bataille, là, mais d'aller pousser les joueurs qui vont sur les petits joueurs. Puis, hein. T'sais, t'es pas obligé de te battre pour.
Ça a jamais été un bagarreur en plus. Il y a 6 batailles. Dans la Ligue nationale en carrière.
Wow, mais c'est ça. Je pense pas qu'une bataille, c'est que... ça nécessairement à défendre ses partenaires. Ouais. Là. C'est juste.
Il n'y a plus beaucoup de joueurs, évidemment, qui peuvent faire être bons à l'offensive puis pouvoir se battre. Là,
sinon, on va te chercher Ron Nancy.
Ben, là, les gars, honnêtement, je vais être obligé de vous arrêter là parce que là, on est rendu.
Je vais juste nommer tous les joueurs. Là,
ouais, ben, c'est
ça. Wade Redden, là.
Non, ça
alors,
va.
Jared Smithson, non.
Mais Charles Clutterbuck, ce serait un bon joueur.
Ryan O'Byrne, non.
Hey, bon, ok, ça suffit. Ça suffit. On arrête de niaiser. C'est de ma faute, hein. J'ai laissé tout ça s'étirer. Mais écoutez, les gars, je crois qu'on va en reparler. Ça, c'est notre avant-dernière émission. Prochaine émission, on va faire le mock draft avec Simon Larouche. Mais. Ouais. Écoutez, on va sûrement faire une petite émission spéciale au mois d'août pour parler de ça, parler des camps d'entraînement, tout ça. Sinon, ça va être allé en septembre, mais j'imagine qu'on va avoir en masse le temps d'en reparler. Fait que c'est ça, on va s'arrêter là pour ce soir. Puis on va passer immédiatement aux médias sociaux. Will you look at me? I have the power! En terminant, comme à l'habitude, je vous demande de nous partager sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Vous pouvez nous trouver sur Facebook en tapant le Pro Shop dans la barre de recherche. N'oubliez pas de cliquer « J'aime » sur notre page. C'est toujours apprécié, on adore ça. Sur Twitter, vous pouvez nous rejoindre à A commercial Simon Brunet, S-I-O. M-B-R-U-N-E-T-T-E ou A commercial Taupi, T-A-U-P-Y, ça c'est le Twitter de Benoît Brunette, ou mon Twitter qui est le A commercial Le Pro Shop en un mot. N'oubliez pas de laisser un commentaire positif sur iTunes, très apprécié, genre on adore votre podcast, les gars, c'est super, vous faites du bon travail, vous êtes professionnels et vous parlez de hockey d'une manière si divertissante que mes vendredis soirs ne le sont plus les mêmes. Ça serait genre parfait comme commentaire.
Quand même, hein?
Quand même. Ouais.
J'aimerais ça.
Et écoutez, c'est pas mal ça. Je pense pas que j'oublie d'autres choses. Les gars, avez-vous des gens à remercier ou...
J'aimerais remercier mes parents. C'est grâce à eux que je suis ici aujourd'hui.
C'est bon.
C'est fait.
C'est excellent. Moi, j'aimerais remercier mes chats. Ils me supportent dans mes moments difficiles. Tant que les livres perdent puis que Détroit perdent, ça me rend malheureux.
Les chats viennent te consoler, c'est bon. Excellent. Écoutez, écoutez, je sais que ça a été une émission, une dernière demi-heure, un petit peu décousue, mais c'est de ma faute. J'avais le goût d'être décousu, ça fait changement, hein, des fois.
Il faut laisser aller notre fou, des fois.
Ah, une fois que j'étais sérieux, en plus. Hein.
Ouais. On a pris la relève.
Fait que c'est ça. Fait que, écoutez, bonne soirée à tous. Et comme d'habitude, hein, on vous laisse sur le mot de la fin.
Ben, bonne semaine tout le monde, on se revoit la semaine prochaine et ben, malheureusement, je vais envoyer des ondes positives à Joe Sakic pour faire un bon choix.